Radio FMR 89.1.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 5 avril 2014, nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR, celle d'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le direct du carnaval que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Une petite vessie, tout ce que vous voulez. Et ben, vous dites, mince, je vais peut-être louper quelque chose d'intéressant pendant ce film. Ah, heureusement, il y a donc cette application qui vous donne. Alors, c'est très simple, c'est vous la lancez et vous dites quel film vous allez voir et vous démarrez au moment du générique. Et au bout d'un moment, il va vous dire, dans 5 minutes, tu pourras aller aux toilettes.
Radio FMR présente. Le supplément Weekend, le magazine des cultures geeks, en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport, Ultimatum et Das Screech, en direct des studios de Radio FMR.
Bonjour Ultimatum.
Hein ? De quoi ?
Je disais bonjour Ultimatum.
Je t'entends pas, tu dis quoi ?
Bonjour du sport.
Bonjour.
Voilà, ça faisait longtemps que le carnaval n'avait pas eu lieu à Toulouse. Je pense qu'il n'aura pas lieu de sitôt d'ailleurs, hein, suite au changement de majorité municipale. Ce que vous entendez, c'est un enregistrement de Sambarési, qui est un groupe local toulousain, justement de percu et tout ça, dans un esprit festif et très carnaval de Rio, enregistré en 2003, hein, place Arnaud Bernard. C'est un enregistrement pirate, je le reconnais, je le confesse, et je me dis que ce sera peut-être le plus beau fond sonore avec lequel on pourra fêter le retour du soleil.
Ouais, faut pas le dire trop fort, hein. Qu'est-ce que tu fais avec des plumes sur la tête? Il y a un gars bourré à côté de toi.
Ouais, c'est super. on va mettre un niveau sonore raisonnable, voilà, pour qu'on puisse faire l'émission.
Ah non, laisse le carnaval. Attends, il paraît que ça dure un quart d'heure.
Ouais, il reste 11 minutes là. Tu veux dire qu'on a pratiquement pas de sujet?
Non, je l'ai pas dit.
Ah bon?
Non, parce que c'est
papa. Dis papa, pourquoi la fille a une grosse bosse dans le slip?
Allez, hop, direct générique pour la semaine prochaine.
Tu as tendu la perche.
Et dire que la semaine prochaine sera cosplay et le samedi suivant aussi.
Ouais, super. De très bon goût, merci.
Ah, mais je le mettrai, l'intégralité de cet enregistrement en ligne. À part de l'émission, hein, on va pas monopoliser les ondes de 89.1 pour ça. Ceci dit, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez très bien. Bonjour Duce, donc.
Rebonjour.
Voilà, hey, bonjour salut. Ultimatum.
Salut.
Non, mais plus près, ça va, rapproche-toi.
Quoi. Rapproche-toi. Salut. Écarte la foule. Voilà.
Ah, on est tranquille. Voilà, bon. Donc tout ça pour vous dire.
Bonjour à nos auditeurs.
Bonjour à vous. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui c'est carnaval à Toulouse. Et que donc vous allez pouvoir en profiter. Allez, Jean Jaurès, si je me trompe. Tout à l'heure, à partir de 15h.
Oh, ben le carnaval ça bouge.
Jusqu'à
hein,
19h et tout ça.
Pas que, je pense.
Ouais. Faudra éviter la farine, les œufs. C'est pas pour rien hein, que l'ancien maire Baudis avait supprimé le carnaval à une époque. C'est que les carnavals étudiants dans les années 80-90. c'était franchement ah ouais, c'était quelque chose d'assez violent et
alors,
brutal.
Attends, du sport sort la dépêche.
Dans ce cas-là, ça lui permettra de je déroule la suite de l'agenda du
fait,
coup.
En fait l'histoire c'est que le carnaval dans les années 80, ça se passait relativement bien et il y a eu
du débordement. C'était dégueulasse.
Il y a eu surtout un débordement, je crois que c'était le carnaval de 90 ou 91, un lundi dernier de l'ère Baudis d'ailleurs, il a été interdit à la suite de ça. Parce que ça a dégénéré en bataille rangée place du Capitole entre les CRS qui voulaient dégager la place vers 2h, 3h du mat, un truc comme ça, et des gens qui disaient putain on continue à faire la fête et qui se sont un peu énervés quoi. Enfin bon, ça c'est une vieille.
C'est une vieille histoire qui était restée. Ce qui fait que pendant très longtemps, c'est resté non, pas de carnaval à Toulouse, etc. À part les carnavals sauvages qui étaient passés comme des prestations scéniques, ce qu'on entend. Donc la troupe Sambarésie qui a un local associatif et tout ça, ils sont assez nombreux et ils ont pas mal de troupes et ils ont dit on va faire une petite fête, etc. C'est une fête musicale. On n'a pas dit carnaval. C'est une fête musicale et tout. Ça met de l'ambiance dans la rue. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas d'œufs et tout ça, il n'y avait pas de jet d'eau et tout le reste. Et puis donc le précédent maire, Pierre Cohen, Obédience PS, avait relancé ça en mettant les moyens et tout le reste. Bien évidemment, on va se demander ce qui va se passer cette année. Dans la suite de l'agenda, je tiens à signaler d'ailleurs, puisqu'on m'en a fait la remarque, au cinéma Utopia à Toulouse du 3 au 6 avril, donc c'est encore jusqu'à demain. Printemps et révolution arabe, Tunisie, Égypte, Syrie. Je rappelle aussi que c'est toujours dans la thématique carnaval, puisque le carnaval, on le sait tous, en Amérique du Sud, c'est un prétexte pour les révolutions. 12 et 13 avril, le week-end prochain, à Diagora, la Beige, c'est le TGS Spring Break. Et on en a parlé dans cette émission il y a 15 jours avec les organisateurs. Nous serons, d'ailleurs, il y aura une émission le samedi normal.
Depuis nos locaux de Radio FMR, on sera pas en direct du TGS.
Voilà, peut-être qu'on l'a préenregistré, on verra, on se démerdera.
Ah, c'est pas sûr encore.
C'est pas sûr encore. Par contre, le dimanche, vers 14h-15h, on sera dans les conditions du direct. C'est un enregistrement pour le samedi suivant. C'est dans les conditions du direct, une émission du supplément week-end en public. Venez, il y aura du bordel. Il y aura du monde.
Venez, amis cosplayers, amis passionnés de rétro gaming, de comics, de jeux de plateau. Venez nous voir, nous serons disponibles. On a des autocollants à vous offrir, on a des BD
des
à faire gagner.
On a un petit peu.
Ouais. Et vous pourrez intervenir en direct peut-être si vous avez des choses intéressantes à nous dire.
On verra. On les fera dans les conditions du direct. Donc l'idée c'est qu'en même temps on vous fasse comprendre le stress que c'est quand même notre émission, vous le verrez.
Non, on n'est pas stressé.
Et en même temps c'est non, on laissera les gens s'exprimer et tout. C'est relativement cadré, attention. On essaie d'éviter les débordements, mais en même temps c'est vraiment donner l'esprit de fête et tout le reste. On verra si des invités du TGS viennent et acceptent, et on aura le plaisir d'abord de les recevoir et vous peut-être de dialoguer
avec eux.
Par contre,
vous nous excuserez à l'avance, mais on pourra pas accueillir des cosplayers avec des costumes de 10 mètres d'envergure cette année.
C'est juste pas possible, rien que pour mettre le casque et pour parler près du micro, c'est juste pas possible.
Ou alors il faut qu'avoir un câble assez long et qu'on se déplace et qu'on bloque une allée exprès pour faire une interview ou pas.
Ouais, on a les moyens, chef, de vous faire parler. toujours question jeux vidéo, Game Over, le règne des jeux vidéo, c'est jeudi 17 à l'Utopia, une projection unique de ce documentaire de Hervé Martin Delpierre, avec un débat avec Olivier Moco, auteur de Jeux vidéo hors de contrôle et de GTA 4 à l'envers du décor américain. Il est aussi game designer, c'est en collaboration avec le collectif Frenchco et avec Gaming Society. Tous les détails donc sur le site de l'émission et sur le site de Utopia Toulouse. Dans les news qui nous ont bien fait rire, BuzzFeed imagine les journaux qui traitent de Game of Thrones et franchement, ça nous a fait marrer. L'idée était très simple. En fait, elle leur a été soufflée par... ils disent hein, qu'ils sont inspirés par le blogueur Maître Eolas, qui est fan de la série. Il n'est pas le seul. Et ils ont imaginé ce que les journaux français auraient écrit. Donc, ça donne Le Parisien, les bons réflexes, l'hiver arrive, Libération, l'enfer du trône, avec la photo iconique. Finalement, ouais, ça aurait été l'illustration qu'aurait pris Libération. D'ailleurs, camarades, si vous nous écoutez, on pense à vous. Le Monde, la défiance vis-à-vis des institutions port-réaliennes à un niveau historique. Closer, l'amour secret de la reine. À chaque fois, c'est vraiment dans les thématiques, dans l'illustration, dans les thèmes utilisés. Et en même temps, il y a des références à la série. Quoi,
le choix iconographique des photos, le travail sur la typographie.
Ouais, si vous connaissez pas la série, vous serez peut-être un petit peu emmerdé. Mais si vous connaissez vaguement, même moi, je n'ai vu aucun épisode. On arrive quand même à comprendre. Le Nouvel Observateur, 35 pages spécial immobilier. Pourquoi il faut acheter maintenant à Winterfell?
Ça, c'est pas mal, ça.
C'est pas mal. L'Express, Tyrion Lannister. Quelles sont ses chances? Ce qui m'a beaucoup fait rire. Son plan pour devenir main du roi, ses réseaux, pourquoi Geoffrey s'en méfie. Dans Le Point, ceux qui nous gouvernent vraiment, les nouveaux francs-maçons du royaume, pourquoi cette manipulation. Et dans Valeurs Actuelles, esclaves affranchis, l'invasion Yvain du Sud, prenez garde. Ça m'a beaucoup fait marrer.
Ouais, excellent. Ouais. Après, ça fonctionne encore mieux si vous connaissez la série. Hein.
Voilà, bien évidemment. D'un autre côté, dans les news absolument improbables, sachez que il y a une trilogie qui est annoncée autour d'Harry Potter, c'est-à-dire il y a une suite d'Harry Potter à partir d'un bouquin qui s'appelle Fantastic Beasts. C'est un spin-off de Harry Potter qui était sorti entre le 4e et le 5e bouquin, qui est cité d'ailleurs dans le film comme étant le manuel de référence. Hein, c'est un peu comme le Necronomicon et tout ça, donc il y a un bouquin de référence qu'ils doivent lire. Sauf que c'est un bouquin de 48 pages. Et là, l'idée, c'est de faire 3 films.
Ah, ben c'est très Peter Jacksonien comme concept.
Ouais, je dirais que c'est très hollywoodien, du style on n'a rien à écrire et tout. Heureusement, il suffit d'aller frapper à la porte de Madame J.K. Rowling et lui dire s'il vous plaît, vous pouvez compléter un peu. Là, on va faire des films et tout. Combien? 3. Bon, ok, c'est temps.
Alors, on n'a pas d'idée, mais heureusement, on a Transformers 14, les Harry Potter et les comics de super-héros.
Voilà, et ça permettra aussi d'étendre les parcs à thème centrés sur les personnages de l'univers d'Harry Potter. Et je vous jure, c'est pas une blague du 1er avril, celle-là.
Ah, il y a des parcs à thème.
Voilà. Alors, les lois et coutumes de la société magique secrète seront connues de toute personne ayant lu les livres ou les films, mais l'histoire de Newt débutera à New York 70 ans avant celle de Harry ne se mette en route. C'est ce qu'a exprimé J.K. Rowling en septembre dernier. On y suivra les aventures de Newt Scamander, un magizoologiste qui a donc écrit le fameux Fantastic Beast. Mais de là à dire qu'on peut faire une émission et complète Newt, avec 3 trucs.
Newt, c'est une orpheline.
Il me semble, ouais. Je suis pas sûr.
Non, c'est une vanne par rapport à Aliens le Retour, parce que la petite fille s'appelle Newt.
Voilà, donc si vous posez la question, peut-on faire une émission avec seulement 3 sujets en stock? Ouais, tout à fait faisable.
Voilà, du sport, il est en train de lire La Dépêche.
Et on verra.
Non, je suis en train d'étudier les nouveaux adjoints de Moudin, là.
En Barésie, en 2003, place Arnaud Bernard en live. Vous écoutez le supplément week-end numéro 381 sur Radio FMR. Nous sommes le samedi 5 avril 2014 et on va faire un petit break musical. Pulp a Little Sound remixé par Kid Loco, excusez-moi.
That's not the way you do it. No, no, no. You shouldn't do it like that. I could show you how you do it right. I used to practice every night on my wife. Now she's gone. I look like a big man, but I only got a little soul. I only got a little soul. Yeah, I wish I could be an example. Wish I could say I stood up for you and fought for what was right.
Merci les réglages. Je peux pas écouter en fait ce que je prépare pour la suite. C'est super. Je sais pas qui a modifié la table. Bon, on va essayer d'arranger. Oui, pardon.
T'as pas
on va
essayer.
Non, je vais meubler quoi.
On va donc parce que Thomas, il avait une campagne de pub à parler.
Oui, mais c'est dans la partie ciné, ça.
Ok, d'accord. Merci, super. Donc du sport, vas-y. Je te rappelle qu'après il va falloir accorder de la place à l'extrême droite. Donc, ça va être...
Non, je m'emballe. Non, c'est pas ça. Non, allez, mais je regardais la liste. La liste et la photo des 26 nouveaux adjoints de notre nouveau maire.
Alors, parce qu'il faut, rappeler une chose pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Le supplément week-end est une émission qui est diffusée sur une radio associative toulousaine qui s'appelle Radio FMR, qui est une radio associative locale. Donc forcément, il y a quand même un certain impact sur le côté culturel et donc par rapport aux dernières élections, évidemment, il va y avoir des changements à venir dans les 6 prochaines années.
Voilà.
Estime que c'est important d'en parler.
Non pas que ça impacte, comme ça a impacté sous la précédente mairie, notre façon de voir les choses ou de d'agir au niveau éphémère et même à un autre niveau personnel, mais bon, c'était juste pour regarder, quoi, pour se tenir informé, quoi, hein, d'accord. Alors, on a le premier adjoint qui est chargé de la culture et des langues et de la langue occitane. On a ensuite
Attends,
parce que moi, ce que j'ai pas trop apprécié, en fait, c'est l'histoire de saucissonnage. Ensuite, t'as une autre adjointe, Marion Lalanne de Lobadère, valorisation de l'histoire de Toulouse. Ensuite, tu as Annette Léniaud, sixième sur la liste, mise en valeur du patrimoine toulousain. Ensuite, t'as vraiment le mec qui s'occupe de la culture, c'est-à-dire Francis Grasse, hein, culture et action culturelle. Parce que la culture, ça suffit pas, il faut également de l'action dans la culture, tu sais très bien. On a également, alors, une adjointe qui est chargée de la lutte contre le bruit. La 14e. Djilali Layani, lui, on le connaît, on l'a déjà reçu ici à Radio FMR et tout. Il est vraiment très très intéressant comme mec. Il est chargé de la jeunesse, des activités socioculturelles et des accueils aux migrants. Bon, ça fait partie de son truc. Il y a également une adjointe qui est chargée uniquement de ce qui se passe au niveau du cirque et du zénith. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de saucissonnage et tout, quoi, alors qu'on aurait pu regrouper, quoi. Et puis, bon, tu vois. Genre, quoi. Alors bon, bah, c'est pour ça, quoi. J'étais un petit peu interloqué, quoi. Et tu vois que c'est pas du tout politique. Du tout, du tout.
Mais ça reste à voir. Ça reste à voir quelle est la part qui va être misée de ce côté-là. Peut-être que justement, la remise en valeur.
Je vais troller un peu, mais est-ce qu'il y a des gens encore que ça intéresse la langue occitane ou pas?
Bah oui, quand même, oui.
Ah ouais?
Oui. Bah, je pense. Au moins trois personnes.
Non, il y a plus de gens.
Bon,
que ça,
ok,
quoi.
Ok. Nos copains, parce qu'ils vont nous couper l'émetteur puisqu'on est chez eux. Nos copains de Radio Occitanie, ça fait 20.
Jean Jaurès.
Oui, donc on vous explique la blague, c'est que tout simplement quand vous quand vous prenez le métro à Toulouse, ils ont trouvé intéressant culturellement d'annoncer de manière bilingue français et occitan les stations. Seulement, la première voie qu'ils ont pris pour faire la voie occitane n'était pas de la région, était une bretonne. Et ça faisait un accent qui était tourné en dérision par tout le monde parce que tout le monde y a vu une parodie.
Mais c'est pas grave, parce que moi, en tant qu'Alsacien, au moins je comprenais.
Quelque chose d'autre à dire en méchanceté, je sais pas.
Non, pas de méchanceté. Non. Moi, j'étais très méchant sur la culture occitane quand je suis arrivé ici en tant qu'Alsacien et par rapport à la relation qu'on a par rapport à notre langage, notre dialecte personnel. Mais c'est vrai que ça fait quelques années quand même et c'est pas une question de politique de droite, de gauche, de maire ou de ce que tu veux, quoi.
Non, pas du tout.
Quand même une espèce de renaissance que je constate, hein, au niveau de la culture occitane.
Oui, et des gens
qui la parlent.
Oui, en même temps que remontée du Front National. Score historique du Front National, c'est va de pair.
Alors là, tu vas très très loin, quoi. Moi, je
dans le troll, je te suis qualité,
pas du,
moi,
je te suis pas sur ce chemin du tout.
Nous sommes arrivés au point Godwin.
Moi, je voulais juste préciser que, au sein du supplément week-end, nous glorifions le multiculturalisme, puisqu'il faut préciser que du sport, à moitié alsacien maintenant, à moitié toulousain, à moitié occitan, je sais, ça fait trois moitiés, ça n'existe pas. Et en plus, il est venu avec une casquette du club déviant, ton nom Gaillard. Alors ça, si c'est pas du multiculturalisme, alors là. Et puis en plus, on voit qu'il faut avoir quelque chose dans le pantalon pour oser porter ce genre de casquette quand même.
Non, c'est parce que j'ai mon footballeur professionnel homonyme qui joue à Evian Tonon Gaillard, tout simplement.
Voilà. Vous écoutez RMC, c'est l'heure de la pub, 12h25.
Comme quoi, des fois, comme les quoi. Casquettes.
En vue de presse.
Alors attends, je viens de m'apercevoir que ma chaise était bancale et que depuis tout à l'heure j'étais en train de glisser vers la table. Alors je vais changer la
Tes questions sexuelles ne me regardent pas. Le psychopathe après. Numéro 263 d'avril.
Alors là, tu me 12h25. Vous écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR. On commence seulement.
La revue de presse.
La revue de presse. Oui, la revue de presse. Oui. En fait, même pas les BD.
Dossier spécial éducation nationale. Ah bah tiens, encore un sujet politique.
Allez,
sensible
encore.
Et tout ça. Et voilà. Avec un dessin de club qui me fait beaucoup marrer. Une fille qui se fait mettre à l'index parce qu'elle a un signe ostentatoire.
Voyons.
En classe. Puisqu'elle a en fait un tchador. Et autour, eh ben, on a des mecs qui ont des casquettes Gucci, les casques B, Gap, Lacoste, Adidas, Nike et tout le reste. Bref, ça envoie fortement. Un dessin de Carite en troisième page, la prof de français en quatrième. Je rappelle que la quatrième est une période assez un petit peu sensible au niveau des hormones. Et plein d'autres vacheries de ce genre. Donc un dossier spécial avec Riffo, Flock, Carali, Kaza, Pixel Vengeur, Karit, Mo, CDM, Jean-Luc Coudray et tout ça. Je rappelle quand même qu'en fait chaque numéro du Psychopathe, ils font un sujet. Et là donc l'éducation nationale, on peut y aller très fort dans le trolling. Et ça y va au taquet. C'est le numéro d'avril 2014, 5€ actuellement en kiosque, zéro publicité à l'intérieur et 100% des pages en couleur. Thomas, lui, il lit, mais il le dévore, mais violemment. Ah ouais, il y en a qui sont assez glauques, quoi. Mais maman, est-ce que je vais à l'école hein? Non, ils vont t'apprendre l'éducation sexuelle. Ouais. Va sur YouPorn.
Oui, mais c'est ça. En fait, tu m'as
spoilé la blague.
Oui.
Mais ça envoie, c'est vraiment pas mal, bien évidemment. Il y a les textes à côté et tout ça. Comme d'habitude, c'est très intéressant. Thomas.
Revue de presse. Donc, on va parler cinéma à présent. Avec SoFilm, puisque TuSport, pendant des années, nous a parlé de SoFoot. Au grand désarroi de Xavier d'ailleurs.
Ouais.
Et ben là, on va parler de SoFilm, ça va parce que. Non mais j'en parle. Un peu plus.
J'en parle plus parce que bon, maintenant, je pense que.
Mais t'as 13h30.
C'est quand même le canard qui est installé, quoi, qui est une des références au niveau du football.
Ouais. Ça fait 10 ans.
Il y a pas de problème.
Et ça fait 10 ans et c'est vrai qu'au départ, on n'y croyait pas. Moyen.
Ouais
quand
ouais.
Quand on a su que Technicart avait fait un truc sur le foot, on y croyait moyen.
Si tu veux quoi, paradoxalement, dès les premiers numéros, vu la qualité hein, de reportage, le ton un petit peu décalé, des fois beaucoup décalé du magazine,
ça passe par les photos.
Soit ça va passer, ça va casser très vite, soit ça va passer puis ça va devenir un truc vraiment très très bien quoi.
Oui, parce qu'il y a que eux qui font ça et du coup, comme ça a bien marché, ils ont sorti.
Et en plus, ils sont pas originaux vu qu'ils ont copié un modèle qui existait déjà. Hein, bon, adapté à la sauce française, hein, bien sûr. Alors bon, nos particularités fait que ça nous branche aussi vachement quoi. Mais bon. C'est vraiment tout à leur honneur, hein, tout à son quoi.
En tout cas, je note que TuSport fait de la pub pour le concurrent sur son t-shirt.
Ouais, mais enfin bon, c'est pas un concurrent.
Il n'existe plus d'ailleurs.
Même plus sur le net.
Si, il reste sur le net, voilà, mais ils ont liquidé la société quoi.
Ah, oui, alors, mais ça fait longtemps. Ouais.
Alors, on parle de SoFilm. Donc, le dernier numéro, celui d'avril, le 19, est sorti en kiosque. Moi, je vous parle juste du numéro précédent, puisque les articles, je trouvais, étaient un peu plus intéressants que le nouveau. Alors, en couverture, c'était Michel Houellebecq. Alors, attends, je suis en train de me démerder avec l'angle de mon micro, voilà, pour jongler avec les marque-pages. Alors, un gros dossier sur Philippe Seymour Hoffman, bien sûr, puisque c'était le mois de mars, le mois où, juste après le décès de l'acteur... alors la patte de SoFilm, c'est comme SoFoot, c'est que ils s'intéressent moins aux films que aux hommes qui sont derrière. Et c'est pareil pour le foot. Donc là vraiment c'est des interviews plus carrière que film, que mise en scène, etc. C'est plutôt qu'est-ce que le gars a à dire derrière, d'où il vient, dans quel quartier il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait, qui fait aujourd'hui ce type de film. Et il est quasiment jamais question de film en fait. Même les critiques sont décalées, c'est surtout les hommes qui sont en arrière. Donc on a une interview que je trouve super intéressante de Quentin Dupieux alias Monsieur Oiseau, qui mine de rien a fait quand même quelques films. Alors c'est marrant parce que on voit que le gars en fait il fait des films comme ça, comme il respire, et puis il avoue très bien que son premier film c'était une grosse merde. Voilà, donc il raconte aussi la genèse, comment il a fait son tube planétaire musical. Après j'ai
je suis en train de le chercher justement.
Interview carrière de Joe Dante.
Flat Eric.
Ouais, l'interview carrière de Joe Dante avec le petit Gizmo en couverture de l'article. On a également, alors ça m'a fait beaucoup rire, c'est le Stallone breton. Donc c'est un acteur donc breton qui veut faire du Stallone, c'est-à-dire faire le Rambo français. Bon, on voit à travers l'article que le mec, bon, il sait faire ses cascades, mais c'est, bon, il a pas trop de talent pour faire autre chose au niveau, on veut dire, comédie. Et alors, un article qui va sûrement beaucoup intéresser du sport, c'est une interview de Burt Young, Poli dans Rocky.
Bah ouais.
Et le gars qui était,
mais pas que.
Et le gars qui a beaucoup traîné avec des vrais mafieux et qui a refusé un rôle dans Les Affranchis puisqu'il avait très très bien connu le parrain qui tombe dans le film et qui avait dit, moi je cautionne pas une putain de balance puisque tu fais un film sur une balance. Ouais. Et puis moi, non, c'est pas possible. Donc il avait dit à Scorsese, va te faire foutre. Voilà, donc ça c'est
New Jersey style.
Voilà, l'interview. Voilà, ça c'est pour du sport. Et dans le nouveau SoFilm, donc en couverture en noir et blanc, Matthew McConaughey.
Yeah.
Voilà, avec bah d'ailleurs tu l'avais pu le voir dernièrement dans Killer Joe, tu nous en avais parlé. Alors ça c'est
dernièrement quand il est sorti au cinéma, quoi. Donc ça remonte. Hein.
Ouais. Alors un article que j'ai pas encore lu, mais ce qui a l'air rigolo, c'est l'autre Paul Verhoeven. C'est un gars. Il s'appelle Paul Verhoeven, mais il n'a jamais dirigé Schwarzy ni Sharon Stone. et donc personne n'a vu les films d'ailleurs. Donc c'est voilà, il s'intéresse beaucoup aux gars qui font des films un peu dans leur coin et qui ont quand même des choses à dire. Donc,
ah, c'est sympa.
Voilà, donc toujours un choix iconographique, toujours très décalé pour les acteurs.
Vivement son film sur Game of Thrones.
Voilà. Alors moi, un truc que je vais me ruer dessus, c'est une interview de Bill Plimpton. J'adore.
Oh oui, j'adore l'animateur fou.
Voilà, l'animateur de l'épisodiable Lune de Miel, etc. Et caricaturiste. Et puis ça finit sur une interview de Karim Abdul-Jabbar.
Yeah.
Donc la citation, c'est « J'aurais pu jouer Chewbacca ».
Le jeu de la mort.
C'est pas lui.
Voilà, le
oui,
jeu de la mort.
Oui, oui. C'est lui qui fait 2 mètres et Bruce Lee qui se prend un coup de pied. La taille de la semelle fait tout son torse. Quoi.
Il est près des 2m20, il me semble.
Voilà, vous avez la
très,
photo.
Très grand joueur.
Vous avez la photo.
Je savais pas que ça existait, cette photo. Oh, mais il le dépasse de 2 têtes, quoi.
Bah, faut savoir que les Chinois sont petits. Allez, non. On y va dans les caricatures. Allez, on rappelle la référence. SoFilm numéro 19, numéro d'avril, 4,50€ en kiosque, ça vient de sortir puisque c'est le numéro d'avril. Dire qu'il y en a qui écoutent ce genre de musique.
Ouais. Pour ceux qui trouvent que la vie est trop courte pour lire en entier les articles.
Déconne pas, j'ai le t-shirt.
Ah ouais. Je vais y arriver, oui ou merde. Pour ceux qui trouvent
non,
que la vie.
Non mais j'en connais qui écoutent ce genre de musique.
On a.
Ouais ouais.
Pour ceux qui trouvent que l'article de la Wikipédia est un petit peu trop long à lire, alors que la vie est trop courte. Sachez qu'il y en a qui font des résumés de la Wikipédia, ça s'appelle tl.dr Wikipédia pour « C'est trop long, je lirai pas en entier la Wikipédia ». Et c'est condensé pour votre intellect. Et aujourd'hui, on fête les 20 ans de...
Eh ouais.
C'est la disparition, effectivement, de Kurt Cobain. Et c'est résumé ainsi, Kurt Cobain était le leader du groupe grunge Nirvana jusqu'au 5 avril 1994 où il est mort de l'overdose d'un fusil à pompe. Oui, c'est bien résumé. C'est pas le seul, en fait, ils ont plein d'articles comme ça qui sont très très drôles. C'est. Oh putain, ouais, non. C'est indescriptible. Par contre, c'est en anglais, donc ça risque d'être un petit peu difficile pour notre lectorat le plus habitué aux films en VF.
De quelle couleur ton t-shirt? Il est quelle couleur ton t-shirt? C'est pas Eric. Jaune?
Non, blanc.
Ah. Super.
C'est plate qui est jaune.
Oui, c'est vrai. Super, sans musique.
Non mais il faut voir le clip avec.
Oui oui, bah c'est Flattery qui avait le téléphone là dans son bureau.
C'était une pub, c'était une pub pour une boisson cette
au départ, oui.
Ouais, exclusivement. Comme quoi. Il s'est proposé, puis ah oui, puis je fais la musique aussi. Ah ouais, tiens, c'est sympa, tiens. Et puis je peux en faire un clip bah ouais, allons-y. Donc voilà, Kitsune Kill You on Radio, c'est ce que tu m'as demandé là. Kitsune Radio. Excusez-moi, Kitsune, c'est le label. Du Sport vient de me frapper à coups de saucisson.
Non, mais tu peux le citer, hein. De toute façon, c'est un très bon label.
Ah oui, tout à fait. On va commencer sortie bande dessinée avec une adaptation d'un roman de Christian Lehmann, adapté par lui-même, par ses propres soins, et scénarisé par Antoine Carillon en bande dessinée. No Pasaran, le jeu. C'est le premier tome donc d'une trilogie qui sort en BD chez Rue de Sèvres, sachant que c'était chez l'École des Loisirs, puisque c'est un roman pour ados à l'origine. Et quand on a 15 ans, quand on est au lycée, ben on a toujours ses copains, hein. On a ses premiers émois amoureux, on a ses premières passions et ses idées bien arrêtées, et on a ses premières responsabilités. Ben nous rencontrons les protagonistes de l'histoire alors qu'ils sont en voyage scolaire à Londres pour plusieurs jours. Et quand des ados d'une ville moyenne sont dans une très grande capitale, que font-ils ? T'as beau essayer, hein, quand même, ils fuguent. Alors que le groupe est divisé en deux pour visiter des musées différents, trois ados fassent compagnie à leur professeur pour s'offrir une balade libre dans Londres. Eric, Thierry et Andreas tombent par hasard sur l'affiche d'un vendeur de jeux vidéo d'occasion et en profitent pour faire quelques emplettes. Et leur centre d'intérêt, c'est surtout le jeu de guerre. Sauf qu'Andreas fait réagir bizarrement le vendeur, qui leur offre un jeu vidéo d'un genre inédit et qui tient en une seule disquette. Oui, vous savez le vieux truc, là, la disquette, là, le truc en bleu. De retour à leur pénate, la disquette, malgré sa capacité antédiluvienne, montrera le jeu de guerre le plus précis qu'ils n'aient jamais vu de leur vie, d'un réalisme confondant. Sauf qu'il s'agit d'un piège, d'un très sale piège, qui vous apprend la réalité de la guerre, ses horreurs et surtout ce que vous êtes. De Hastings aux campagnes napoléoniennes, l'horreur de la guerre sidère Eric et Thierry. Andreas, lui, se montre au contraire de plus en plus excité. Le chemin des dames va révéler la personnalité de chacun, surtout quand Pétain ordonne aux joueurs de fusiller des soldats au hasard pour faire taire la révolte qui monte dans les rangs. Ce qu'Eric et Thierry ne savent pas de leur ami Andreas, c'est qu'il a une fascination morbide pour Hitler, et si son père est un homme politique, eh ben, ce dernier se situe très, 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 très à droite sur l'échiquier politique. C'est la vue d'un insigne SS qui a fait bondir le vieux boutiquier anglais et qui a décidé de donner à ses enfants la leçon de leur vie. Cette BD est l'adaptation de la trilogie donc écrite par Christian Lehmann. Auteur réputé s'adressant à la jeunesse, il a enchaîné depuis 30 ans des livres à succès, comme La Folie Kenaway, avec lequel il a débuté d'ailleurs en 1988, si je me trompe, L'Évangile selon Caïn, ça c'est vraiment les romans adultes, il a une éducation anglaise, il a fait quelques bouquins pour enfants justement, et une autobiographie, Patience si vous saviez, Confession d'un médecin généraliste, parce que oui, son métier c'est d'être médecin de famille. La trilogie No Passaran est ouvertement antimilitariste et l'angoisse très bien menée. Les adolescents sont placés dans des situations impossibles dont ils ont retenu que trop vaguement, en cours d'histoire, ce qui s'est passé. Le scénario marche très bien. Malheureusement, je mettrai des réserves sur le dessin d'Antoine Carillon qui n'est pas toujours très constant et ça c'est vraiment dommage à mon sens. Certaines planches ayant vraiment une différence de rendu avec leur vis-à-vis sans réelle raison par rapport à l'histoire, on devine le changement de technique en plein milieu. Après, surtout que le bouquin était sorti en fait en album à l'école des loisirs, une partie était sortie à l'école des loisirs, des planches du milieu, donc ça explique peut-être une reprise de certains dessins. Après, c'est vraiment un bon album et les leçons qui viennent dans le bouquin ne sont pas celles que l'on croit toujours, enfin vous verrez par vous-même. No Passaran, le jeu, c'est le premier tome d'une trilogie appelée No Passaran. C'est de Christian Lehmann et Antoine Carillon au dessin, et c'est édité par Rue de Sèvres. Eh ouais, je me suis trompé, j'aurais dû changer de disque.
Non, mais tu peux laisser ça.
Alors vas-y.
Non, mais tu peux laisser le morceau et puis après on entame la deuxième BD après.
Ok. Brian Teen, toujours de Hearts Revolution, puisque j'ai pas changé de disque. Situation critical. The situation's critical. Arts Evolution, Brian Teen. Et c'est extrait de l'album Ride or Die. Nom du sport, je n'ai pas vu la Vierge.
Je vois pas le rapport.
Thomas.
Il dit qu'il voit pas le rapport.
Alors, on trollait à propos de la couverture troll de la Dépêche aujourd'hui. Moudinque, le jour de gloire, et en dessous, aujourd'hui c'est carnaval.
Ouais, ouais, c'est vrai.
On
hein.
voit quand même que le PRG est franchement mauvais joueur.
Ouais. Bon, on va pas insulter les journalistes de la Dépêche.
Ouais,
même.
On en connaît quelques-uns. Donc, hein voilà. Allons-y.
Alors, on va parler d'une BD beaucoup moins engagée qui s'appelle Dofus, Dofus Monster.
Ah.
Dofus Monster, le concept, vous le connaissez, un monstre, une histoire, un manga. Donc ce sont des one-shot à chaque fois au format manga en noir et blanc en français qui sont inspirés chacun d'un monstre du jeu Dofus. Alors la qualité est plutôt inégale, généralement l'avantage c'est qu'on a vraiment un univers graphique différent à chaque tome. Avec un univers voilà assumé, certains sont plutôt dans les rendus crayonnés, d'autres avec des trames plutôt manga, etc. Alors le fait que ce soit un one shot et puis plutôt focalisé sur un monstre du jeu vidéo n'autorise pas forcément un développement extraordinaire des personnages, donc ça c'est un peu pénible.
Tu veux dire que tu viens de décrire le défaut des trois prochains Harry Potter?
Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, dans les Dofus Monster, c'est vrai que comme les monstres du jeu sont pas forcément très réputés pour leur intelligence, soit ce sont des monstres intelligents et puis ils finissent très très mal, donc ça, il y a jamais d'happy end, soit ce sont des monstres qui sont crétins au début, qui le sont au milieu et qui le sont à la fin, donc ça, ça fait un tome plutôt inintéressant. Dofus Monster Worker, donc là, alors à chaque fois on trouve des références plus ou moins assumées et plus ou moins précises et directes à des trucs existants. C'est un peu la marque de fabrique des productions Ankama. Donc là, on est vraiment, c'est un crossover entre du Docteur Moreau et 300. Alors, je vous fais le pitch sur la mystérieuse île reculée d'Otomai, le Docteur Morose se livre à des expériences pour créer un super monstre. Sa créature sans nom, que l'on appellera Bworker, finit par s'échapper vers la terre des Bwork. Mais c'est au moment où notre échappée se lie d'amitié et goûte enfin à l'insouciance que les ennuis arrivent. Avec la fameuse bataille calquée sur la bataille des Thermopyles, donc là ça s'appelle la bataille des Thermoslip ou Splip. Alors je sais plus exactement, mais ça c'est pareil. Voilà, en fait imaginez une créature de l'île Docteur Moreau qui s'échappe, qui va trouver l'amour, qui va trouver un bien-être parmi une tribu... tout part en vrille après parce que vraiment le super monstre à la base il avait un petit héros qui était un peu maléfique. Je le considère pas dans le top des Dofus Monsters. Le graphisme particulier puisque c'est quand même quelqu'un qui vient du multimédia, donc c'est plutôt orienté cartoon, un petit peu animation, donc ça tranche un petit peu avec vraiment le design manga habituel. C'est pas l'un des meilleurs. Moi j'avais particulièrement aimé le Sphincter Cell c'était le précédent. J'ai vraiment bien aimé l'environnement des égouts, côté souterrain et tout. Bon là vraiment on est plutôt dans le classique avec une île, des feuillages. C'est plus classique. Donc voilà, ceux qui sont fans de l'univers Dofus, vous pouvez jeter un œil, voire même vous le procurer. Ça fait un tome de plus dans la collection des Dofus Monsters. Le concept est particulier, c'est un peu comme les donjons monsters, hein. C'est un peu calqué là-dessus. Donc voilà, on rappelle la référence. Dofus Monster Worker par Dobbs. Puisque j'ai oublié de citer les deux auteurs. Le dessinateur c'est Ricardo Tercio et le scénariste c'est Dobbs. C'est édité chez Ankama. C'est dans la moyenne, on va dire.
Ouais, ouais. Enfin, à première vue, tu t'abîmes pas les yeux avec les décors. Hein.
Allez.
Oula. Du sport vient de relever le quota chambrage de l'émission. Ça
ouais, non, mais c'est pas méchant, hein, je veux dire. Si c'est pour se concentrer sur l'histoire. Sur l'action, c'est cool, quoi, tu vois.
Ouais, bien rattrapé.
Bah, ça donne un repère de temps de lecture.
Ouais. Tangram, Echo Ego, extrait de du single EP. Non, c'est un album.
C'est un EP. C'est entre les deux.
À vrai dire, c'est du sport qui fait une partie de la prog musicale aujourd'hui. Donc voilà. Zouf. Le bon vieux chiptune des familles. Echo Ego, notre quota musique francophone. Pub.
Ouais.
Et Thomas, et du coup, en plus, tu le savais que c'était à toi.
Ah non, mais je pensais que le jingle, il était entier, en fait.
Bah non, c'est...
Allez, ouais, on fait une petite...
On l'a fait le coup de passer le jingle en entier pour une pub, mais tu m'avais prévenu que tu faisais une chronique complète. Tu m'avais pas prévenu que c'était une pub. Et là, tu me dis, ouais, bon, je vais parler de cette pub. Oh non, tu envoies le générique.
Alors, on va faire une news rapide cinéma. Donc, j'aurais parlé de cinéma aujourd'hui. Donc, c'est Spider-Man qui revient, mais pas dans le film qui sort fin avril de The Amazing Spider-Man 2. par ce tâcheron de Mark Webb et avec ce nouvel acteur qui ne fait absolument pas tromper dans le premier film était une bouse infâme.
Alors, je me demande comment tu vas la tomber ta blague, parce que c'est Spider-Man qui revient, en général c'est le début d'une blague.
Le Spider-Man revient en version bébé, enfin petit garçon. Donc voilà, donc pour préparer la sortie donc du film, il y a un partenariat entre Evian et l'agence BETC qui font avec Marvel Studios pour décliner la campagne, la fameuse campagne Baby and Me. Donc souvenez-vous, c'était les adultes dans la rue qui regardaient leur reflet en version bébé, enfant très très jeune, et qui faisaient des chorégraphies en danse. Et là c'est pareil, c'est Spider-Man qui tombe sur la version bébé, donc c'est plutôt un truc un peu kawaii, un peu mascotte. Donc déjà que Spider-Man il avait la cote dans les cours de récré, bon là c'est bon, ça va pulluler un peu partout, parce que j'imagine qu'il va être aussi décliné.
J'attends quand même que un avis des personnels des écoles en disant attention, vos enfants boivent de l'eau d'Evian, c'est pas bien, c'est comme le coca, annique les dents.
Alors faut savoir que la campagne de pub originelle avait eu 135 millions de vues sur internet 31 décembre 2013.
Elle était interactive d'ailleurs, il me semble, si je me souviens bien.
Ah, tu pouvais aussi faire toi-même des chorés devant ta glace.
Non, il y avait une application sur téléphone mobile où tu te prenais en photo et t'avais une application qui te rajeunissait.
D'accord.
Qui t'imaginait comment t'étais en gamin. Ça avait bien cartonné ce truc.
Ah ouais, moi j'ai pas fait, tiens, il faudra qu'on le teste. Et donc le film se décline avec l'univers new-yorkais et avec l'homme araignée du coup. Et puis à la fin, la chute, c'est le petit. Il y a Spider-Man qui prend la pause et le petit qui lui dit hey, « Eh oh, il y a les sirènes de flics là-bas. Ah ouais, c'est vrai, il faut que j'y aille. » Et là, il se prend un lampadaire new-yorkais. Bon, voilà, c'est la petite déclinaison de Spider-Man en version chibi, comme on dit, puisque le TGS arrive. Chibi Spider-Man.
C'est super. On le voit un petit peu partout, d'ailleurs. Mais je pense
oui, il y a les campagnes d'affichage, des posters, des affiches.
Je pense que c'est surtout le plan com qui fait que ça cartonne bien et pas autre chose. Pas si après tu est-ce qu'ils vont le développer avec d'autres personnages de chez
ce
serait amusant
ouais après tirer
Hulk
le truc
tout
sur...
jeune
ouais tirer le truc sur jusqu'à la corde, ça je sais pas. Et puis en plus il faut trouver des personnages qui parlent aux enfants, donc Spider-Man il avait déjà un plein pied dans les cours d'école justement à travers les cartables, les trousses et tout qui avait bien implanté, c'est comme Flash McQueen. Après Hulk, j'ai pas l'impression que ce soit un personnage très très populaire auprès des enfants. Wolverine, on en parle même pas. Parce
tu,
que
penses
bon,
que, tu penses que c'est vraiment les enfants qui sont
ah ben, là, clairement, je pense, puisque c'est pour. En fait, il y a deux types de bouteilles. T'as la bouteille Evian classique et la bouteille en toute petite. Et puis moi, j'en ai à la maison, puisque voilà, j'ai un gnome à la maison. Et c'est des bouteilles qui sont vraiment un peu ramassées, on dirait des versions SD des bouteilles. Et ensuite, t'as le bouchon qui est pas un bouchon classique, c'est un bouchon à sucer. Comme pour les cyclistes en fait. Donc c'est vraiment
okay.
Orienté enfant, c'est la petite bouteille d'eau que tu mets sur la table de chevet et pour éviter de foutre de l'eau partout sur les draps. Donc, quoi.
Tu devrais passer quand même à de l'eau adulte comme Perrier ou San Pellegrino, hein. C'est juste pour citer les trois marques.
Ah d'accord.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Et maintenant le programme entre les publicités.
on a parlé de séries. Pub, maintenant les... Les séries télé.
Oui, bah parce qu'on vous explique, on vous rappelle quand même que les séries télé, c'est ce que vous regardez pour qu'on vous fasse rester pendant les pubs. Voilà. Non, c'est nul.
Ah bah, ça tombe mal parce qu'en plus, je commence par une chaîne qui ne diffuse pas de pub.
Oh, mince.
Arte, en l'occurrence, qui ce soir vous propose, dans la lignée des nombreux documentaires musicaux du samedi soir, eh bien, un excellent documentaire qui s'appelle David Bowie en 5 actes. Documentaire de Frank Whiteley de l'année dernière, mais qui est inédit à la télé. 5 actes, c'est-à-dire bah, on prend 5 moments charnières dans la carrière de David Bowie. Ah, ça commence par Ziggy Stardust, ensuite on a l'exil vers les États-Unis, la soul music, puis l'exil vers Berlin, la musique électronique, Carver tout le bordel, enfin bon, voilà quoi. Et la renaissance quoi du début des années 80 avec Fame et puis tout ça quoi et Let's Dance quoi. Enfin, bon voilà, la carrière de David Bowie toujours intéressant parce que bon bah hein, c'est quand même l'un des grands.
Je savais pas que du sport ça allait faire le moonwalk.
Ah bah attends.
Du moonwalk sur David Bowie.
Bah oui, il faut oser.
Ça c'est ce soir donc à 22h35. Ce soir, soirée pizza bière sur RTL9 avec tout d'abord à 20h40 Cobra, le film de
Stallone,
Pan Cosmatos avec Stallone et Brigitte Nielsen, suivi de Desperado et Desperado 2 juste après quoi. Donc,
alors on dira même pas la marque de bière. Et Desperado 2, je l'ai découvert il y a quelques semaines, il est pas mal.
C'est pas mal, c'est sympa.
C'est,
hein.
C'est pas mal, franchement.
Ouais, ouais. Non,
et le
franchement,
de Johnny Depp, il est excellent.
Bah, justement, autant le Desperado 1, bon, il est brut de décoffrage, puis voilà, et puis c'est l'incursion hollywoodienne d'un type qui a fait un film vachement bien au départ, quoi, avec trois quenelles, quatre cacahuètes. Ok.
Mais par contre,
autant le 2
aussi pour sa scène caliente.
Ouais ouais, autant le 2, bah tu te dis ok quoi, il a intégré les codes hollywoodiens, tout, on va les détourner un peu, on va y aller à la porte Nawak et puis si ça passe c'est bon, c'est cool quoi.
Et, qui, et puis bon, ça donne, fait qui donne vachement envie de manger du puerco pili.
Ouais, entre autres. Et d'être copain avec Salma Hayek quoi.
Ouais, on la voit pas beaucoup d'ailleurs hein,
ouais,
parce
mais
que c'était
bon.
La période Frida Kahlo qu'elle tournait.
Ouais ouais, mais bon, ok quoi. Le peu que tu la vois, c'est bien.
Ouais. Mais par contre, ouais. Faute de goût d'avoir fait jouer Enrique Iglesias quand même.
Ouais, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux quoi. Alors, Sursis fait également ce soir à 20h45. Ils se foutent pas de votre gueule le samedi soir. Tout d'abord, le Star Trek de J.J. Abrams ce soir là à 20h45, suivi à 22h25 de l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Hein, franchement, t'as une soirée plus pourrie que ça. Hein.
D'accord, ouais, ouais.
Là, y a pas de problème, vrai, hein, sans vrai. Problème. Ce soir également sur TCM à 20h40, l'ordre de McKenna, voilà, genre l'ordre de McKenna, je comprenais plus. L'ordre de McKenna, un western de Jack Lee Thompson, un Anglais qui est né à Bristol, deux jours avant le début de la Première Guerre mondiale, le 1er août 14.
Merde.
Ok, ça l'a pas empêché de faire des excellents films comme la version originale de Cape Fear. En 62 avec Mitchum et Gregory Peck, les Canons de Navarone une année auparavant aussi quoi. Et là bien Lord McKenna, c'est dans la lignée des westerns de la fin des années 60 début des années 70. Là c'est un western qui date de 69 avec Gregory Peck, Omar Sharif, Telly Savalas et Keenan Wynn. Bon ok quoi, hein, casting sérieux. Et c'est l'histoire de plusieurs mecs qui cherchent à retrouver un trésor qui a été planqué par un shérif. Et le shérif il est pris en otage et tout quoi. Et tu nous amènes là où est le trésor. Ouais, non je ne le ferai pas. Enfin bon voilà quoi, c'est un petit peu l'or de McKenna. C'est pas mal, c'est assez sympathique. C'est ce soir sur TCM. Ou sinon un film très très intéressant mais qui est passé complètement inaperçu dans la carrière et du réalisateur et de l'acteur principal. Pourquoi ? Parce que bon, c'est un sujet qui à l'époque, on en avait pratiquement vraiment rien à battre. C'est vrai, c'est le cas de le dire. C'est sur TCM donc, sur Paramount Channel donc à 20h40. Le titre français c'est L'Opération Diabolique. C'est un film de John Frankenheimer qui date de 1966. Alors rien à voir, hein, le titre français est complètement porte-nawak parce que
pourquoi je suis pas surpris ?
Anglais et Seconds. Les secondes, mm-hmm. Ok. Et en fait, c'est l'histoire de d'un type qui a la cinquantaine, interprété par John Randolph, quoi, et qui décide, grâce à la chirurgie esthétique, mais un petit peu expérimentale, de se rajeunir. Bon, on est dans les années 60. La chirurgie esthétique existe déjà, hein, bien sûr, hein, pour se faire augmenter les seins, enfin des trucs comme ça et tout, quoi. Seulement là, bon, ok, c'est une opération vachement plus complexe, mais qui existe déjà, mais enfin, bon, avec beaucoup de risques. Et donc John Randolph se transforme en Rock Hudson qui va avoir la trentaine et tout quoi, enfin Rock Hudson dans les années 60 quoi. Seulement bon bah le film est tourné en noir et blanc, il y a beaucoup d'effets de caméra, il y a des expérimentations quoi de, sur l'image quoi qui sont complètement novatrices à l'époque hein. C'est-à-dire que bon bah les mecs, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc Frankenheimer qui nous a fait des trucs pas possibles et tout. Puis là il nous fait ce truc là quoi. Et la même année en plus, c'est le mec qui sort Grand Prix avec Steve McQueen quoi. Bon, alors bon bah c'est pour ça que le film est passé petit peu à la trappe on va dire et qu'en plus Rock Hudson à l'époque était un petit peu employé à contre-emploi justement quoi, parce que bon bah c'était pas un héros comme on avait l'habitude de le voir dans Géant, dans les westerns, dans tout et n'importe quoi, où c'était vraiment l'archétype du mal, enfin bon, du mec qui a la morale. Non, là, non, pas du tout, quoi. C'est complètement différent. C'est vraiment une petite curiosité à voir, donc. Hein, c'est ce soir sur Paramount Channel à 20h40, L'Opération Diabolique de John Frankenheimer avec Rock Hudson, Salome Jens et John Randolph. Sinon, sur Planète, si vous avez loupé cet excellent documentaire Il repasse ce soir à 20h45. Ça s'appelle Une journée dans la vie d'un dictateur, où on va suivre une journée dans la vie de trois dictateurs. Alors c'est un petit peu emmêlé. Hein. Il y a Staline, il y a Mobutu et il y a Kadhafi. Voilà, c'est ça. Quoi. J'y suis arrivé. Quoi. Et donc en l'espace d'une heure d'émission, il y a une heure qui est, il y a une journée qui est une journée marquante dans la vie de ces dictateurs hein, qui est narrée. Alors bon, c'est mélangé, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit peu du coq à l'âne en passant de Kadhafi à Mobutu, puis après c'est Staline, puis. Mais si on suit depuis le début, c'est vraiment très très intéressant et on apprend vraiment beaucoup de choses, quoi, historiquement parlant, quoi. Surtout en particulier en ce qui concerne Kadhafi, ce qui a précipité sa chute, quoi, et qui sont des documents vraiment véridiques, qui sont assez trash quand même. Le truc est moins 12, quoi, et c'est vrai que il est illustré par des images d'archives qui sont vraiment assez assez trash, quoi. Il faut le dire quand même. C'est ce soir donc sur Planète à 20h45, une journée dans la vie d'un dictateur. Sinon, il y a également ce soir, et là je suis tombé dessus, quoi, un petit peu par hasard lors des deux premiers épisodes. Non, c'était vraiment sympa. C'est sur Planète A plus E. Alors bon, Planète qui a des déclinaisons que tu laisses tomber. Il y a Planète Thalassa, il y a Planète Normale, il y a Planète C et I, et il y a Planète A et E. Je sais même pas à quoi ça correspond, laisse tomber.
Art Entertainment, c'est la chaîne américaine.
Et donc ce soir également, à 20h45, il va falloir faire un choix. Ça s'appelle Roller Girls, et c'est un documentaire en 6 parties qui suit la vie de jeunes filles qui pratiquent le roller derby. Et la particularité, c'est que ce documentaire a été tourné à Toulouse. Au club de roller derby toulousain qui s'entraîne assez souvent sous les arcades que vous avez au stadium, tu sais quoi, les trucs sous la OK.
Dont la mascotte a été dessinée par l'artiste Serge Biro que nous avons reçu en direct sur cette antenne.
Tout à fait. On a déjà vu un reportage sur France 3. Il y a d'ailleurs une des chroniqueuses de Cinécure qui est une des roller derbyeuses, mais qui peut-être ne figure pas dans les trucs. Il va falloir voir le documentaire pour savoir. Enfin, c'est très très intéressant, c'est sympa. On découvre un nouveau sport également, quoi. Qui est assez rigolo à voir. Et puis bon, il y a une sensation de fraîcheur que moi j'aime bien, quoi, justement, quoi, dans l'approche de ce nouveau sport, la façon dont les personnes qui s'en occupent, c'est-à-dire le président de ce club de Toulouse, les différents entraîneurs des différentes équipes, parce qu'il y a pas mal d'équipes, il y a beaucoup d'équipes, c'est frais, c'est rigolo, c'est sympa et tout, quoi. Et en plus, c'est du sport, quoi. Donc c'est ce soir sur Planète A et E, à 20h45, Roller Girls, c'est l'épisode 3 et l'épisode 4. Demain sur France 3, retour de Barnaby, un inédit.
Ouais.
Attends, c'est plus John Nettles, hein, c'est Nick de John, hein, le cousin. Rappelle-toi. Et celui-là s'appelle Frisson de Noël, une histoire de fantôme dans un château. Tu m'étonnes. Cinéphile Frisson vous propose plutôt une soirée bien bourrin avec à 20h45 Hypertension. Ils sont mis deux à le faire, hein, Mark Neveldine et Brian Taylor. Alors dans le premier, en une heure, le mec, il a été intoxiqué. Il faut qu'il trouve l'antidote. Et en même temps, qu'ils trouvent le moyen de bourriner, quoi, les mecs qui l'ont empoisonné.
Ouais, en fait, voilà. Il a un truc au cœur. En fait, si le cœur il tombe en dessous d'une certaine fréquence, en fait, il meurt. Donc, il est obligé de se mettre sur hypertension pendant tout le film. Et il y a même un 2.
Voilà.
Et dans le concept, il est très bourré, il est très con, en fait. Il faut que je fasse plein de trucs qui font que mon cœur il bat vite, quoi.
En clair, speed, mais avec un seul mec et moins de moyens, quoi.
Mais sans but.
Oui, moins de moyens.
Non, mais et dans le 2, justement, comme il y a encore 6 histoires de cœur, mais là qu'il est plus empoisonné parce qu'il pouvait pas le faire et tout, quoi. Là, il s'agit d'une histoire de transfert d'organes. Avec les mêmes, Jason Statham, Ephraim Ramirez, Dwight Yoakam, enfin exactement le même casting. Donc c'est demain soir sur Ciné Plus Frisson, l'un après l'autre. Sinon,
une descente d'organes.
Alors Ciné Plus Frisson, d'accord.
Alors sinon, demain sur OCS City, l'excellente nouvelle, c'est que si vous avez loupé les épisodes de True Detective, l'excellente série avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey, qui sont pas que acteurs dedans, ils sont également producteurs et tout. Et puis bon, ça a tellement plu à tout le monde qu'il y a une deuxième saison. Enfin bon, ça marche. Et là, comme vous avez loupé tous les épisodes, c'est sûr, vous n'avez pas OCS City. rattrapage sur OCS City ce soir, demain soir à 21h45, l'intégralité de la saison du numéro 1 au numéro 8. Il n'y a que 8 épisodes, ça va. Hein. Et puis bon, avec les moyens modernes, on peut enregistrer, hein, n'est-ce pas ? Demain, toujours sur Polar, à 20h50, un faux mouvement, un polar de Carl Franklin de 92, avec Cinda Williams, Bill Paxton et Billy Bob Thornton. Un bon petit polar, hein, sympathique et tout, de la part de ce réalisateur que, bon, bah, on n'attendait pas trop de choses de ce mec. En plus, c'est un black, qui débarque à Hollywood, réalisateur. Attends, laisse tomber, quoi. Non, non. Et il a fait un peu plus tard Le Diable en robe bleue, le film avec Denzel, je crois. Il y avait Denzel dedans, quoi. Enfin, l'histoire de vampire, là, truc. Et après, bon, bah, là, depuis un certain temps, sa carrière, ses réalisateurs, bon, enfin, bon, c'est un bon plan, hein, pour continuer à vivre. Réalisateur, pilote de Rome, il a fait également The Riches, le pilote, il a également fait Falling Skies, The Pacific, enfin bon, voilà, quand même, réalisateur télé, quoi, sympa, quoi, tranquille. Mais le petit faux mouvement est sympathique à voir et tout, avec Bill Paxton qui est vraiment très très bien dedans. Et demain également sur CineFX, ça c'est une curiosité, un film de vampires suédois qui s'appelle Tales of Vampires, de Annette Bank en 2006 avec Petra Nielsen et Emma Haberg, une nana qui intègre un hôpital et puis se rend compte que tous les patients pratiquement et c'est des vampires. Oh là là, comment va-t-elle
pas
faire
de la chair fraîche.
Ah ouais, et ben c'est le cas en plus en Suède. Lundi sur Arte à 20h50, Le Mépris de Godard. Le Mépris de Godard, quoi. Hein, ok,
et tu,
d'accord.
Et tu l'aimes mon plan promo
avec
et tu l'aimes
Bardot,
mon scénario
Piccoli,
et tu l'aimes mon caméo de réalisateur célèbre
Fritz Lang. Et c'est vachement marrant parce que là, vous pourrez le revoir donc lundi à partir de 20h50 sur Arte. Mais si vous vous déplacez à la Cinémathèque demain soir à 20h, eh bien, le même film sur grand écran. Dans le cadre de la séance Zoom arrière qui a débuté hier soir à la Cinémathèque, il se déroule toute la semaine jusqu'à vendredi prochain avec plusieurs, on va dire... bon, c'est les 50 ans de la Cinémathèque, déjà.
Voilà. Hein.
Alors ensuite,
et puis en même temps, c'est un film qui se passe à Cinecittà et qui traite de cinéma et tout ça.
L'interrogation
ça
sur
m'aurait...
le cinéma. Là,
voilà,
bon,
c'est
bla,
assez
bla,
important.
Bla, 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 bla.
Et ça m'aurait étonné qu'il ne le passe pas. Et il est très bien d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, franchement, ça vaut le coup.
Ah oui, mais il est très bien. En plus, moi, je l'ai vu il y a un petit mois là.
Oh,
je l'ai revu.
C'est un bonus à faire ce soir.
Et en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est que en fait, c'est un tournage dans un tournage, puisqu'il y a l'acteur principal qui est engagé pour scénariser le film de Fritz Lang, produit par Jack Palance. Et c'est sur Ulysse. Alors c'est la métaphore du couple avec Ulysse. Pourquoi est-ce qu'il rentre pas, Pénélope, est-ce qu'elle l'a trompé, machin et tout. Et à la fin tu vois des plans du fameux Ulysse de Fritz Lang, ça a l'air tout pourri en fait. C'est un truc avec un gars Ulysse musclé qui regarde l'horizon en train de faire lever de la victoire avec une épée. Tu dis quoi ce truc. Bon voilà, mais sinon le film est très bien, oui. Avec cette musique là,
ah bah oui, oui, oui,
qui accompagne
oui,
toujours
non,
les rétrospectives sur.
Non, non,
sur,
non, voilà. Non,
alors,
non,
alors,
non.
Il faut aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, ça, c'est un des points d'orgue hein, de cette semaine de Zoom arrière, mais il y a également des thématiques. Alors, l'invité, la réalisatrice invitée qui a plus ou moins imprimé sa patte hein, sur une partie de la programmation, c'est Noémie Lobsky, qui nous a fait Camille Redouble. Hein. C'est un des derniers films qu'elle a sorti. Il y a également d'autres films d'elle qui seront projetés tout au long de la semaine. Et il y a également, d'autres thématiques que j'ai pas retenu, quoi, dont Carte Blanche, hein, l'Austria Film Museum, enfin un truc comme ça. Enfin bon, on n'a pas trop le temps. Mais également quelques films qui concernent Léatrice Joy, une actrice du cinéma muet, dont on va projeter 4 ou 5 films. Avec un film de Bedmil, avec des réalisateurs qui à l'époque étaient vraiment des réalisateurs conséquents et des films qui vraiment valent leur pesant de cacahuètes. Certains sont illustrés musicalement par un orchestre en live, hein, ciné-concert, hein, la truc habituel. Bon, je vous ai pas retenu les différentes dates parce que c'est un petit peu n'importe comment. Ça commence demain matin, le premier, c'est à 11h du matin à la Cinémathèque. Mais après, tout au long de la semaine et tout, quoi, Léatrice Joy, allez-y, hein, c'est une actrice du muet, quoi, qui est vraiment... assez spécifique, sa gueule, elle a très eu très tôt la coupe à la garçonne et tout quoi, qui a un petit peu inspiré après des nanas comme elle a connu Mary Pickford quoi, donc qui qui est à l'origine de la création de United Artists avec Charlie Chaplin. Elle a connu également d'autres actrices très connues, quoi, de la période du muet. Elle s'est mariée avec John Gilbert, quoi, c'est son premier mari, quoi, qu'elle a largué parce que bon, le mec, il voyait pas qu'elle, quoi, il voyait l'envoyer d'autres aussi, quoi. Donc, mais c'est vraiment une nana à suivre et une très très bonne actrice du muet. Elle a fait deux films après, quoi, parlant, quoi, mais c'est tout, quoi, sa carrière s'est arrêtée. Mais elle a quand même vécu jusqu'à l'âge de 95 ans, quoi, hein, ce qui est quand même pas mal. Et si vous avez à Hollywood, bah, vous ne serez plus ignare en vous arrêtant sur l'étoile, sur Hollywood Boulevard où il y a marqué Léatrice Joy. Vous saurez qui est Léatrice Joy. Elle est pas belle, la vie?
Merci, Duce.
C'est magnifique. Merci, Duce.
Merci, Gaspard.
Tu vois. Alors, on va redescendre sur Terre. C'est toujours lundi. Donc, à la télé, à 20h45 sur Syfy, Tasmanian Devil. On redescend sur Terre. De Jacques Lipowski avec Danica McKellar et Terry Jane, quand même. Quand même, il y a Terry Jane.
Bah, faut savoir que donc j'ai fait un bruitage parce que le diable de Tasmanie, c'est le monstre fou qui détruit tout et qui fait, il s'exprime en bogorigme.
Bah, c'est Taz.
Voilà, c'est Taz.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et dans le temps, on l'appelait.
C'est Taz.
Et dans le temps, on l'appelait Errol Flynn.
Ouais.
Oh, mais c'est vrai. Mais il est né en Tasmanie. Alors, Tasmanian Devil, lundi sur Syfy qui est suivi à 22h25 de Prolifération, le film de Stephen R. Monroe, le mec dont je vous parlais la semaine dernière parce qu'il va être Tornade de glace. Mais c'est également le mec qui a fait les deux I Spit on Your Grave. Référence quand même. Et là, Prolifération, c'est l'histoire de Sean Patrick Flannery, Victoria Pratt et George Chung qui sont des explorateurs, des archéologues, et qui vont être attaqués par des vers géants assoiffés de sang. Ah, les boules, quoi.
Oui, c'est la prolifération des scénarios pourris.
Sinon, sur Ciné Plus Premier, à 20h45, lundi, Paddle Ship, l'excellent film de Peter Berg.
À 5.
Ouais, Taylor Kitsch, Liam Neeson, le papa de Rihanna. Tout le monde y croit, mais ça marche quand même. Sinon, lundi, sur OCS City, c'est surtout le début de la quatrième saison de Game of Thrones. Quand même. Attends. Ou alors, si vous êtes vraiment rétif à ce genre de truc, je vous propose un grand classique de la science-fiction sur CineFX, c'est Soleil Vert de Fleischer, c'est lundi,
oui,
donc à 20h50.
Bon appétit.
Ou alors, c'est pas un grand classique, mais c'est quand même, il devrait l'être, quoi, moi je trouve, c'est Le Sergent Noir de John Ford en 60. On est en 1960 et John Ford fait un film sur un soldat, un sergent noir donc, qui est accusé de meurtre, mais en fait c'est un coup monté, il y a des relents de racisme, tout le bordel et tout. C'est avec Constance Tower, avec Jeffrey Hunter, avec Woody Strode, qui joue le rôle du sergent noir bien sûr, quoi. Et le film est excellent, quoi. Et à l'époque, faut dire qu'il fallait le faire, ce film-là, quoi. Et bon, John Ford, lui, s'est permis de le faire parce que bon, à l'inverse de Howard Hawks, quoi. Howard Hawks, lui, c'est le cinéaste américain de qui est intégré, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec qui est là depuis longtemps, alors que John Ford, lui, c'est un immigré, c'est un Irlandais. Donc, il voit l'Amérique de l'autre côté, quoi. Un petit peu, quoi, dans ses films, quoi. Enfin, bon, en général, quoi. Mais surtout sur Le Sergent Noir, deux, trois autres œuvres où il s'est un petit peu décarcassé. Mardi sur TF1, on avait à peine terminé avec la saison 2 de Personne ne m'intéresse. C'était mardi dernier. Hop, saison 3 dans la foulée, mardi prochain. Avec l'arrivée, non, enfin la confirmation au casting, parce qu'elle devient un personnage régulier, c'est Sarah Chahi.
Oh là.
La nana qui avait eu son one shot là dans l'épisode 19, je crois, où on voyait pratiquement qu'elle, quoi.
Ouais. Et ça m'étonnait absolument pas que parmi tous les personnages qu'ils avaient rentrés, ils allaient en garder.
Mais moi je trouve que le truc qui est vraiment très très bien dans cette série, c'est le soin qu'ils ont apporté aux personnages féminins. Hein, tu regardes le personnage de Sarah Chahi, tu regardes le personnage de la nana là qui veut, enfin tu sais pas si elle veut tout dégommer, tu sais pas pourquoi elle veut prendre le contrôle de la machine, elle dit qu'elle veut la libérer la machine, mais enfin bon, tu sais pas, qui est également un personnage très travaillé, hein, qui a du background, enfin bon, tu dis ouais, quand même ça vaut le coup, quoi. Alors que bon, bah
c'est le mystère féminin.
Ouais, mais bon, parce que bon,
elle est nulle, autant Jim,
autant Ruth, c'est-à-dire Jim Caviezel, ou Emerson, quoi, c'est-à-dire le mec de la machine, Hitch. Non, c'est pas Hitch, non, je me rappelle pas comment il s'appelle. Enfin bref, quoi. Ils sont là, ils ont un background, mais qui est lié à l'histoire. Autant les nanas, bon, il y a des trucs qui échappent encore un petit peu, quoi.
Et
à mon avis, quoi.
En quelques mots, c'est quoi le concept de la série?
C'est un informaticien qui est le dernier à savoir. Alors, qu'il a construit une machine pour le gouvernement qui, voilà, permet de prévoir des crimes.
À la suite du 11 septembre et tout, ils se sont dit on va développer un programme informatique et tout, quoi, qui permet de prévoir n'importe qui a une intention malfaisante.
Voilà, donc elle a accès à tous les
trucs.
C'est elle a accès à toutes les caméras de surveillance, toutes les conversations téléphoniques, tous les emails. Mais l'État ne s'intéresse qu'aux trucs qu'il considère comme majeurs.
Voilà, donc le terrorisme, les trucs comme ça, quoi.
Mais il y en a un qui a dit je vais être franc-tireur, non, je vais m'occuper des petits meurtres qu'on pourrait éviter.
Voilà, c'est ça. Alors il y a aussi l'histoire dans l'histoire. Ouais, c'est du Nolan, hein, de toute façon, quoi. C'est-à-dire comment
Jonathan Nolan.
Jonathan,
le frère.
Scénariste, hein. Donc tu sais pas si la machine, à un moment il la donne au gouvernement, ceux qui l'ont créé, quoi, hein, c'est-à-dire quoi, un autre mec et puis Emerson, et pourquoi, dans quelles conditions, alors bon, ça t'apparaît clair, mais non, c'est plus tout à fait clair, mais après ils veulent se la réapproprier à nouveau, mais pour différentes raisons, tu sais pas trop, quoi. C'est en ça que c'est assez intéressant, en fait, hein. C'est parce que on va plus loin que ce qui existe déjà dans la réalité. Alors c'est un petit peu de la science-fiction, parce que c'est carrément énorme, hein. C'est-à-dire toutes les conversations, toutes les.
Je vais dire en quelques mots, histoire.
Non, elles sont déjà toutes enregistrées. Toutes nos conversations téléphoniques sont enregistrées,
voilà,
stockées pour un mois, donc c'est déjà le cas. Hein,
c'est-à-dire qu'ils arrivent à communiquer l'un avec l'autre par le biais justement de tous les moyens de télécommunication qui existent, caméras de surveillance, téléphone cloné, enfin tout le truc et tout, quoi. Mais ils arrivent à le faire, et c'est là que c'est de la science-fiction, quoi. Ils arrivent à le faire de suite, comme ça, instantanément, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de temps de
je trouve que c'est le personnage
de réponse, ouais. Non, c'est tout de suite,
c'est le personnage de l'ancien, okay, tueur de la CIA qui est quand même le plus drôle. Il est taciturne.
Ah, lui il est bien, lui. Oui,
et
oui,
tu
oui,
le
oui.
vois tu le vois chaque fois qu'il apparaît dans une scène, il a le flingue qui sort, foum foum. Il tire 2 balles dans les genoux des mecs.
Bah oui, mais
voilà, c'est tout. C'est tout.
Et il est techniquement aussi bon que Cabezel, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est normal. C'est des alter ego, en fait, hein.
Oui,
de toute façon.
Mais
quoi.
C'est
au
très
niveau
drôle.
Du fight, quoi.
Mais ils sont, je trouve que la série a un humour non-dit, quoi.
Oui, ça aussi. Non, voilà. non, mais ça, c'est très important de le dire aussi, hein. Non, mais, donc, c'est mardi, hein. C'est le début de la saison 3 à 20h55. Person of Interest.
On en est qu'au mardi et il est 13h25.
Sinon, si vous êtes un petit peu plus décérébré, que vous avez pas envie de trop réfléchir, parce que bon, faut quand même un petit peu réfléchir, dans Person of Interest. Un petit peu, quoi. Il y a Doom, quoi. Sur RTL9. Ah, bah voilà.
The Rock.
Bah ouais, The Rock. Carl Urban. Merde, quoi. Ou alors sur Syfy, vous avez le monstre de l'arche de Declan O'Brien avec René O'Connor.
René O'Connor, c'est pas
la copine.
C'est pas Dawson.
C'est la copine de Lucille Oles.
Ah oui, c'est la blonde.
Ah oui,
la petite blonde.
Oui, oui.
Enfin, ouais, enfin bon, voilà, on a compris, quoi.
Voilà, avec également Tim DeKay, qu'on a vu dans une série dont je me souviens pas le titre, qui est vraiment très très bien. Tommy Tynan.
Gabriel s'appelait.
Gabriel, c'est ça, ouais.
Voilà, Gabriel. Tommy Tynan. Servait à rien.
Tiny Lister et encore Amanda Crew. Sinon, mardi sur Ciné Plus Classique, on a également Bronco Apache, ouais, de Aldrich, avec Brut. Brut Lancaster, Gene Peters, John McIntyre, le Virginien, Doug McClure, rappelle-toi.
La série des années 50.
Non, tu peux pas.
Hein. Tu peux pas. T'étais pas né, Thomas, toi.
Début des années 60, quand même, quoi.
Pas encore.
OCS Géant vous propose.
Non.
Mardi à 20h40, quand la marabunta gronde, le film de Byron Haskin. Eh ouais, Byron Haskin quand même, quoi. Et avec Charlton Heston et Eleanor Parker, alors ça passe autant que je me souvienne, parce que je l'ai vu quand j'étais très très jeune, en Amérique du Sud, et puis c'est l'invasion des marabuntas, c'est-à-dire des fourmis géantes et tout, quoi. Et alors, ce qui est vraiment très très marquant dans ce film, quoi, c'est que la partie technique, quoi, le moment où les fourmis attaquent et tout ça et tout, quoi, c'est vraiment très très bien filmé, quoi. C'est assez incroyable la façon de filmer ça. Il faut se rappeler que ce film date de 1954, quoi. Et moi, ça m'a rappelé un film, j'ai vu la marabunta d'abord hein, mais un film très jeune, quoi. Et j'ai vu après le film de Saul Bass, Phase 4, qui est également un film à propos de fourmis, quoi. Et les deux films m'ont beaucoup marqué parce que bon bah vraiment techniquement quoi, la façon qu'ils avaient de filmer les fourmis était vraiment nickel, du moins pour l'époque.
Hein. Dans les deux films, les fourmis c'est pas tes amis.
Mais les fourmis c'est pas tes amis. Enfin dans Phase 4 c'est encore plus évident que les fourmis c'est pas tes amis, c'est pas tes ennemis non plus. C'est, on cohabite quoi, merde quoi, fuck, faites pas chier quoi.
D'accord.
C'est normal. Remettez-vous les choses en perspective quoi. Alors que dans La Marabunta, bon ok c'est sûr, film de 54, film de production, bon bah ok hein, ok.
Une bonne fourmi est une fourmi morte.
Voilà c'est ça. Mais par contre bon bah elles sont vraiment virulentes quoi. Et il y en a vraiment beaucoup hein. C'est assez incroyable.
C'est pas cool,
c'est pas mal. Sinon sur Paramount, on avait parlé la semaine dernière, c'est mardi prochain 20h40, l'Ours Bar ou The Italian Job, hein, c'est le titre original du film de Peter Collison avec Michael Caine, Noël Coward. Et je vous avais pas dit, mais il y avait également Ben Hill dedans.
Ah.
Si, si. Bon, enfin bon, là, il fait pas le con hein, dedans, quoi. Sinon, mardi prochain, il y a également sur Action, 20h50, Genix Cops, tiré de du manga, hein, du même titre, du même nom, le film de Benny Chan avec Nick Tse, Daniel Wu, Eric Tsang. Enfin bon, ça avait été annoncé avec à l'époque. Le film est sorti en 99. À l'époque, ça a été le gros truc. Ça devait dépoter à fond les manettes et tout. Enfin, le manga avait fait vachement de carton. Et puis le
fait
film ouais bon pff, ouais. Et je crois qu'il y a eu un 2 et un 3 même, enfin bon
ouais, c'est Hong Kong quand même.
Ok hein. Laisse tomber. Mercredi sur Canal Plus, l'écume des jours de Gondry, hein, parce que bon bah ouais alors je sais plus quelle est la portée de ce truc, parce que bon bah que ce soit Gondry c'est normal quoi, c'est actuel quoi, mais je veux pas jouer au vieux con, mais enfin bon nous à notre, quand on était jeune, ben on avait une part importante qui était la lecture de livres, même sans images, quoi. Il n'y avait pas que les BD. Et bon, l'écume des jours, enfin bon, Vian, ça faisait partie des lectures obligées, quoi, à une certaine, à un certain âge, quoi. Alors que là, je sais plus, quoi, si les gens qui ont bon, entre 15 et 18 ans, ben, ils ont lu l'écume des jours. Donc, quel peut être le rapport entre le bouquin et la vision du film et tout, quoi. C'est là que Gondry, ok. Mais bon, Gondry, je pense qu'il a passé l'âge de se dire « Ouais, je fais des trucs pour plaire à ceci, à cela et tout, quoi. » Il dit « Bon, putain, merde, oh, hé, oh. » Maintenant,
ouais,
je me fais plaisir
surtout,
aussi un
ouais,
peu
lui.
Et puis, merde, quoi. Donc, c'est mercredi, quoi, sur Canal+. Comme généralement, mercredi, en plus, t'as pas grand-chose à la télé, quoi, d'intéressant.
Si, il y a Top Gear, maintenant, c'est en VO.
T'as du foot.
Non, t'as Top Gear, c'est en
et
VO.
Et sur France 4, t'as une soirée d'Aren Aronofsky.
Ah.
Avec Black Swan et ensuite Requiem for a Dream.
Oh.
Donc, bon, c'est,
ouais,
c'est pas
très,
mal.
Très
quoi.
Bon. Et franchement, ouais. Black Swan, si vous l'avez pas vu, vous laissez pas leurrer par le prétexte de.
Bah, non, moi je dirais.
Non, c'est vraiment magnifique.
Bah, Requiem for a Dream, c'est vachement mieux, quoi.
Oui, oui, les deux se valent. C'est vrai que l'un
ça,
est.
Ça n'a rien à voir.
Jusqu'au bout,
ça n'a rien à voir. Mais bon, ok, quoi.
Il y en a un qui a un gros clignotant Oscar dessus. Alors que l'autre, c'est plus un peu rentre dedans.
Et il a quand même eu un Oscar.
Oui. Oui.
C'est là que. Ok. Donc, ça, c'est sur France 4 mercredi. Donc, Aronofsky, quoi. Black Swan et Requiem for a Dream. Ou alors sur Sci-Fi. Une bonne soirée également. Un bon début de soirée, on va dire, à 20h45 avec le Splice de Vincenzo Natali. Adrienne Brody, Sarah Paulet, Delphine Chaneac, une espèce de truc qui ressemble un petit peu à la mouche, quoi. Globalement, hein, une bestiole qui rentre, tu sais pas trop comment.
Avec des jambes à l'envers.
Voilà, quoi. Donc, et puis bon, c'est quand même le mec qui nous a explosé la tête au départ avec son premier film, Cube.
J'avais pas aimé, moi, mais.
Moi franchement, quoi, j'avais.
Il était très très bon.
Très
non,
très bien.
Non, non,
vraiment,
j'avais pas aimé. Non, j'avais pas aimé.
Oui, mais tu l'as vu quand il est sorti à l'époque.
Oui, au cinéma, je l'avais vu.
Alors là, t'es un des rares, quoi, je pense, quoi. Vraiment, t'es un des mecs qui. Vraiment, j'en connais très très peu, quoi.
Mais moi, j'aimais pas trop. Alors après, j'adorais le concept du. On fait un film qui sort de nulle part, pas de franchise, on invente tout, ça c'est bien. Par contre, le côté. Bon, je spoil, mais bon, le flic qui pète les plombs et qui tue tout le monde, je trouvais que là, c'était, on était parti sur film de décalcage des autres persos. Bon, c'était un peu dommage, fait qu'un survivant. Bon, c'était un côté un peu, voilà, un peu trash, un peu serial killer que j'ai pas trop aimé, mais sinon, le concept avec. En fait, ils ont construit qu'un cube et demi en fait pour le tournage, ouais. C'était juste avec des éclairages, ils disaient, ouais, ça c'était pas mal.
Non, non, mais vraiment, quoi, c'est pour ça, quoi, que c'est très intéressant. Quoi,
et t'as David Hewlett dedans.
Ouais. On a était à Cube, donc. Donc, c'est pour le Splice qui est suivi à 22h40, mercredi prochain sur Syfy, de l'attaque des Guêpes Dragons. Le film de Johnny avec Corinne Nemec, bien sûr. Et Dominica Juillet. C'est pas moi qui l'ai inventé, quoi. Mercredi, toujours sur AB1, 20h40, les commandos de l'ombre de Steven Mounder avec Marc Dacascos, Bruce Boxleitner, Armand Asante. C'est pas un film d'amour. Sur TCM, toujours mercredi prochain à 20h40, l'excellent western d'Anthony Mann. Peut-être un de ses meilleurs d'ailleurs, hein, L'Appât, avec James Stewart, Robert Ryan et Janet Leigh. Jeudi sur France 4, devine où sera.
Xavier. Oh, bah devant Sherlock, j'imagine.
Sherlock, encore le deuxième inédit, donc, 2014, hein, réalisé par Colm McCarthy, Le Signe des Trois. Alors, il trouve toujours des titres à la porte nawak.
C'est une histoire plus ou moins originale parce que je crois que c'est le mariage.
Non, parce que l'original, c'est Le Signe des Quatre. C'est le deuxième livre. Le premier, c'est Étude en Rouge, suivi du Signe des Quatre. Où t'es plus ou moins obligé de lire le premier pour comprendre un petit peu le deuxième, mais t'as pas besoin.
Du sport. C'est un épisode où en fait c'est le mariage de Watson. Donc ils ont complètement déconstruit le livre.
Revendiqué. C'est le concept de cette série de Sherlock. Mais il y a toujours des trucs qui raccordent. Bon, les titres correspondent toujours plus ou moins.
Les enquêtes auxiliaires remontent.
Toujours. C'est ça qui est sympa, quoi, justement, quoi. Il y a pas que ça, quoi. Sur Syfy, jeudi prochain à 20h45, Atomic Apocalypse de Jeffrey Scotland.
Déjà, un apocalypse, c'est pas cool, mais en plus, il est atomique.
Ça lui avait pas suffi parce qu'il avait déjà fait Tornado Apocalypse avec David Chokapic.
David Chokapic, t'as pas honte de dire ça.
Spécialiste des apocalypses.
Il a fait Alien Invasion, il a fait Goblin aussi, pas mal.
Alien Invasion, c'était le gonzo porno.
Non, pas du tout.
Aliens qui rentrent avec des trucs.
Alors, Robin Dunne et Amy Bailey, entre autres, dans ce Atomic Apocalypse sur Syfy. Sinon, sur Action, La Proie des Vautours de John Sturges, un film de guerre avec Frank Sinatra, Gina Lollobrigida et Steve McQueen. C'est pas du casting qui tue de la mort, franchement, quoi. Vendredi. Vendredi, on termine donc cette semaine avec sur Syfy, Paul, le film de Greg Motola. Sympathique, si vous l'avez pas encore
c'est
vu,
C'est l'histoire d'un boulanger qui s'installe dans un quai de gare.
Ok. Sinon, sur OCS Choc. Je me rends compte que on est déjà vendredi et sur OCS Choc, je me rends compte que je ne vous ai pas encore chroniqué un film de JCVD, Time Cop. OCS Choc, vendredi prochain, 20h40.
Mais il est facile. Bien, celui-là.
En plus, il est bien. Ron Silver, Mia Sara, il est bien. Il y a quelques trucs qui déconnent.
Ouais, genre quand tu croises ton double dans le futur et que ça fait un blob.
Ouais, non, mais c'est ça, quoi.
Bubule.
Paradoxe temporel, de toute façon, ça foutra toujours la merde. Et ça permettra toujours à des gens de remplir des pages énormes de blogs, quoi, sur des trucs que, bon, parce qu'ils ont que ça à foutre, quoi. Voilà.
Et puis surtout, t'imagines, quand il a lu le skip,
il peut pas être ailleurs, alors bon, et puis s'il décale de là, il peut pas se retrouver ici.
Non mais t'imagines le réalisateur qui a dû expliquer à Jean-Claude Van Damme. And so when they meet, it goes in bubbles. Ah ouais, j'ai eu un poisson rouge qui s'appelait Bubule.
Non mais par contre il y a Peter Yams qui a sorti un nouveau film là qui est sorti direct en vidéo. C'est Enemy Closer avec Jean-Claude Van Damme aussi. Mais je crois qu'il est disponible que en VOD.
Qui est passé à la télé il y a pas longtemps. Je vous avais parlé il y a deux semaines.
On t'écoute pas.
J'étais pas là il y a deux semaines. Merde.
Bah voilà. Quoi.
T'en fais pas.
Bon. Ce sera pas la dernière. Alors vendredi toujours sur Paramount Channel, Dimanche Noir, un film de John Frankenheimer en 77 avec Fritz Weaver, Robert Shaw et Bruce Dern. Voilà, c'est ça, j'arrive à me lire et tout, quoi. Une histoire de terroriste de Mossad et de FBI. Alors c'est assez intéressant de voir le film parce que c'est en 77. Bon, il y a déjà eu des terroristes, bien sûr, arabes, bien sûr, puisque il y a eu Munich en 74, les détournements d'avions, la fraction armée rouge et tout.
CCC, Action Directe et tout ça. Il y a déjà eu des anarchistes et de l'extrême droite en Italie.
Mais les années de plomb, c'est autre chose. c'est un peu décalé quoi. Mais regardez et faites non mais faites le mettez ce film en perspective une fois que vous l'avez vu avec la situation actuelle. Juste pour vous dire. Et aussi pour dire Fritz Weaver, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu tous. C'est le mec qui conduit la bagnole dans Duel.
Ouais mais oui d'accord.
Que dire de plus? Que dire de plus quoi? OK. Tu pourrais dire ouais, il a tourné dans tel film et tout quoi. Oh, je vois pas sa tronche ce mec. C'est le mec qui conduit la voiture de Duel. Là, tu mets tout le monde d'accord, sauf ceux qui ont pas vu Duel. Ce qui est le cas de pas mal de gens.
C'est vrai.
Mais ouais,
mais ici on a trop bon Duel
quoi. Ouais. Genre j'ai vu trois images et tout dans un documentaire sur machin et tout quoi. Action, c'est toujours vendredi prochain à 21h, vous me disiez mais si tu mets du CBD, t'as pas mis de Steven. Ah ben voilà, du Steven. Alors sur Action vendredi prochain à 21h, Menace toxique de Félix Henriquez Alcala. Alors lui, je vous avais déjà fait un topo sur lui, donc je le refais pas. C'est pas la peine.
Non.
Par contre, Steven Seagal, Mark Helgenberg, Stephen Lang, Chris Christopherson,
oula,
Harry Dean Stanton.
Ah oui.
C'est du casting qui trouve
ce qu'il faut.
Voilà. Le titre original, c'est Fire Down Below. Le titre québécois, Alerte sous la terre. j'ai pas l'accent, désolé. Et ce film a obtenu.
Je peux tenter de le faire, Alerte sous la terre.
Ce film a obtenu 4 nominations aux Razzie Awards.
Ah, petit score Steven, quand même.
C'est-à-dire qu'il est pas passé inaperçu alors.
Ah ben non. Steven Seagal, pire acteur. Razzie Award du pire film. Le pire couple à l'écran. Seagal et sa guitare.
Ah, c'est honteux.
Et la pire chanson originale, donc la chanson de titre Fire Down Below, interprétée par Steven Seagal à la guitare et tout quoi. Ok. Alors ça c'est sur Action vendredi prochain, donc 21h. Le film est quand même pas mal en plus quoi, sympathique quoi.
Ah mais tu l'as vu en plus?
Bah quand même.
Il y en a qui ont tenté. Il y en a qui ont tenté.
Non mais il est encore jeune hein.
Ah, il est pas gros encore.
Ah non, là il est pas encore gros. Hein. Et il y a Mark Helgenberg. Jeune.
Ok, je peux y aller?
Ouais, vas-y.
On va faire un petit bonus du coup, improvisé, puisqu'on a parlé de l'excellent film de Godard, Le Mépris. Sachez que, donc, la fameuse scène où elle est sur le lit et mes fesses, tu les aimes mes fesses, oui je les aime tes fesses, etc. n'était pas dans le montage originel, c'était tout simplement le producteur américain qui a financé, qui a dit, je suis désolé, vous m'avez promis Brigitte Bardot dans mon film, je veux la voir nue. Ils avaient complètement monté le film, ils avaient fait la colorigraphie et tout ça, donc en catastrophe, Jean-Luc Godard, absolument furieux, doit aller tourner. Le directeur de la photographie, Raoul Coutard, raconte ça, il était déjà parti. Ça s'est passé complètement à la fin, on avait tout étalonné, on avait envoyé le film, il a dit non, ça ne va pas, je veux voir le cul de Bardot. Et donc il a fallu tout retourner et improviser du coup les dialogues. Et il faut savoir que quand on voit les fesses de Bardot, ça n'est pas elle.
Ah,
c'est un doublage.
Ah là là. Ah l'escroc.
Parce qu'elle a fait la gueule.
Parce qu'elle a fait la gueule, elle était pas du tout d'accord.
Elle est pas d'accord du tout, elle voulait pas le faire.
Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui reste du film, cette scène?
Ah bah oui. Et comme quoi les producteurs, il faut toujours les écouter.
Et la semaine prochaine, vous saurez à qui appartiennent ces fesses.
Oh, ça c'est du teasing, salopard. Mon dieu, mais c'est la fin du supplément week-end numéro 381, tandis que le First Contact d'Omnitrio est en train d'arriver dans vos oreilles. Ultimatum se dit, mais il y en a qui ont écouté le podcast en diagonale ou qui sont arrivés en cours de route. Qu'est-ce qu'ils ont loupé?
Eh ben ouais, il y avait du boulot pour noter tout ce qu'ils ont loupé. Une grosse bosse dans le slip, un balai, des barésilles, encore du sorcier. Oui, je sais que tu as voulu faire un balai, la bosse dans le slip, mais tu passais à ça. Encore du sorcier, du trône de fer en kiosque, des décors qui n'abîment pas les yeux, une araignée version peluche, du jeu de guerre, un moonwalk des dictateurs trash, une descente d'organes, une histoire de vampire truc, des faux mouvements avec un micro, des vers géants, les boules Gabriel, des fourmis géantes, des guêpes dragons, enfin du JCVD, du Steven, du casting qui trouve.
Non, un script qui tenait en 8 lignes. On a réussi à caser tout ça et avec un débordement de 12 minutes pile poil.
Yeah.
Mais comment fait-on ? Seriez-on des professionnels ?
Seriez-on des professionnels ? Je pense que oui et non. En tout cas, j'espère, franchement, du sport à teaser. J'espère qu'on saura à qui appartenaient les fesses.
De Brigitte Bardot. La doubleuse.
Voilà.
En VO, bien sûr. Heureusement, grâce à la diffusion différée, si vous avez manqué tout ça, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, et c'est vos commentaires, supplementweekend.fr. Le site est supplementweekend.fr, sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz en modulation de fréquence Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM sur cette fréquence sur région de Toulouse et en continu sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, on vous fait visiter le TGS Spring Break un peu en avance.
Il y aura du réac décryogénisé.
Il y aura aussi Warwick Davis, le petit Willow. Et oui.
Le petit Willow et...
Ah ouais, et d'ailleurs, détenteur du nouveau record sur le track de Top Gear, depuis mardi. et on vous donne non seulement rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, mais dimanche, si vous venez au TGS Spring Break, venez à l'enregistrement dans les conditions du direct. Ce sera en public. Vous êtes les bienvenus, ce sera à partir de 14h-15h, on verra.
Où ça ?
Au TGS Spring Break, c'est à la Beige, à Diagora.
Ouais, vous avez le droit de venir si vous savez à qui appartiennent les fesses.
Non, tais-toi, toi, tu prends l'antenne dans 15 minutes.
Oh, un petit Wikipédia, tu sais, ou Google. Hein.
Non, IMDB.
Tu le sais au moins ou pas ?
Ouais, je l'ai su, mais bon, c'est pas tellement important en fait.
Ah bah si,
franchement.
Non, c'est à important. L'époque, lui, il était pas sorti, donc c'était pas.
Ma gueule, j'ai Playboy.
Ouais, mais Playboy, voilà. Panthère ?
Non.
Oh, bon, j'ai eu peur. Comme maman écoute des fois cette émission, elle va savoir ce qu'il y avait sous les matelas.
Oh, si, avec ça.
Oh, c'est gentil, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Et bien, on est encore là. On est voilà. Forcément voilà.
Bah, oui,
on n'en peut plus de dire au revoir. Salut.
On va visiter d'ailleurs si vous n'êtes pas venu.
Je suis en train de me dire que la bibliothèque personnelle était nettement plus intéressante, tu vois quoi. Marquis de Sade à côté de lui, je veux dire.
Oui, donc Xavier essayait de placer l'exposition artistique qu'il y a au rez-de-chaussée des locaux de Radio FMR.
Oui.
Donc c'est 9 boulevard des Minimes,
oui,
voilà. Le long du canal.
Alors la semaine dernière, vous seriez venu à 19h samedi soir.
Le vernissage.
Vous auriez pu un petit peu vous arsouiller, quoi, parce que bon, c'était le vernissage.
Vous arsouiller, oui.
Parce que bon, généralement, les vernissages, ça sert à ça, quoi. Sauf si t'es l'artiste ou que t'es le mec qui veut acheter, quoi.
Ouais,
dans
là,
ce cas-là, tu restes
pas.
Sérieux, quoi.
Ouais.
Mais sinon, tous les autres, ils sont là pour dire « Oh ouais, c'est vachement bien, quoi. » Et puis, allez, hein, c'est où le buffet. Mais sinon, vous pouvez venir pendant la semaine aux heures d'ouverture.
Rappelle-nous.
C'est l'après-midi de midi à 17h ou 19h.
On va dire de 14h à 17h, 18h. Ouais. Quoi, voilà,
n'hésitez pas à passer. Enfin, et franchement, c'est vraiment sympa en plus. Hein. Il y a vraiment des chouettes trucs.
Des bons détournements.
Ouais.
Attention, allez. Tout est comptabilisé. Soyez prévenus.
Ciao, bye bye. Celui qui gagne, c'est le dernier à dire ciao, bye bye. En général, parce que c'est lui qui est le chef.
Ciao, bye bye.